Voyage Cast épisode 26, la globe stoppeuse en vélo solaire. Et pour cet épisode, c'est Annick Marie que nous recevons sur Voyage Cast. Mais qui est-elle, me direz-vous ? Eh bien, si vous traînez sur le net du côté du voyage ou du côté de l'autostop, vous l'aurez certainement déjà croisée sur l'un de ses blogs, que ce soit sur Globestoppeuse ou Sun Trotteuse. Elle est très connue sur la toile, elle a les cheveux roses, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Elle est co-auteure sur la Bible du Grand Voyageur, sortie il y a quelque temps avec Lonely Planet. Elle a fait pas mal de conférences TED. Bref, c'est une star du web, une star du voyage. Pour ceux qui la connaissent, eh bien, vous êtes certainement convaincus comme moi qu'un jour on aura un film sur elle, parce que oui, elle a une vie follement intéressante. C'est une fille absolument géniale et je suis très heureux de la recevoir sur Voyage Cast. Alors on aurait pu parler d'un grand nombre de choses avec elle, elle a beaucoup de connaissances sur le voyage, sur l'autonomie, sur l'autostop, on en avait déjà parlé avec Néo il y a près d'une année maintenant, mais nous avons décidé de nous intéresser à sa prochaine aventure, le Sun Trip. Alors ce podcast se sépare en deux parties. Dans la première, nous parlons du Sun Trip, de ce que c'est exactement, de comment ça se présente, de comment Annick s'est organisée, de ce que ça veut dire, quels sont les buts recherchés par le Sun Trip. Bref, tout ce que vous avez à savoir sur cette manifestation vraiment intéressante et aussi comment vous pouvez suivre Annick dans sa progression. Alors la deuxième partie est un peu plus confidentielle, on va dire. Il faut savoir que avant d'enregistrer un podcast, on parle avec l'invité de ce qu'on va présenter pendant le podcast. On parle un peu du background, on va dire, qu'il y a autour du podcast. Qu'est-ce qu'on va choisir dans un pays, de quoi on va parler, quel sujet on va éviter d'évoquer. Bref, on organise l'émission. Et puis pendant l'organisation qu'on a fait avec Annick Marie, on a parlé du solaire et des parties un peu plus techniques du vélo. Et puis, en faisant le podcast, je me suis dit que c'était un peu dommage de laisser tomber cette partie, qui finalement intéresserait certes une petite partie des auditeurs, mais était tout de même trop intéressante pour la laisser sombrer dans une mémoire morte quelque part dans mon ordinateur. Du coup, je l'ai mis en deuxième partie, ça dure 14 minutes, c'est donc encore assez court, et puis on va parler un peu plus de comment fonctionne le vélo, et puis un peu plus comment fonctionne le solaire au Canada, en Suisse, bref, on cause du solaire. C'est aussi très intéressant, mais ça a un peu moins à voir avec le voyage, mais je l'ai mis quand même, et puis ça intéressera sans doute quelques-uns d'entre vous. Alors tout de suite, la première partie, il y aura une petite pause musicale entre les deux, et puis ensuite, on enchaîne sur la deuxième et la conclusion. Allez, bonne interview!
Désolé, je regrette. Tu sais, ma vie est pas très passionnante. Du genre métro, boulot, dodo, je sais pas quoi dire. Tu devrais lire mon journal. Tu verrais qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le vide.
C'est vrai ? Et ça te rend triste ? Ou anxieux ? Parce que moi, tu vois, je suis toujours anxieux. Je pense que je ne vis pas ma vie à fond, tu sais. Que je ne profite pas des possibilités offertes, que je gaspille toujours les précieuses secondes auxquelles j'ai droit et ça m'angoisse.
Ouais, j'y pense, moi aussi.
Hein ?
Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast, je suis en compagnie d'Annick Marie. Salut Annick.
Salut.
Comment tu vas ?
Ça va bien, un peu fatiguée.
D'accord, ouais, sur Montréal, il y a des tempêtes de neige actuellement, hein, c'est ça ?
Oui, et la neige elle vient de s'arrêter là, ça fait 3 minutes à peu près, il y en a plus qui tombent.
Ok, alors il neige à Montréal, il y a eu de la grêle en Suisse et maintenant j'ai du beau soleil, c'est magique, hein. Le temps change en fonction d'où on est, c'est incroyable. Alors tu es venu aujourd'hui pour nous parler, on aurait pu parler d'énormément de sujets, mais pour nous parler du Sun Trip. Alors Sun Trip, on comprend qu'il y a un truc avec le soleil, mais c'est quoi ? C'est quoi ce truc ?
Sun Trip, c'est un rallye de vélo solaire, le premier rallye de vélo solaire pan-européen. Il y a un groupe d'aventuriers qui ont chacun leur vélo solaire, qui vont partir des Alpes françaises, donc de Bourget-sur-le-Lac, près de Chambéry, qui vont partir jusqu'au Kazakhstan, à Astana, la nouvelle capitale, chacun avec leur véhicule.
D'accord. Alors, comme ça paraît un truc assez incroyable. Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que on se met pas dans une aventure comme ça en connaissant rien du tout. Tu as un blog, tu as pas mal voyagé. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours vite fait?
Oui, alors je suis co-auteur d'un livre chez Lonely Planet, La Bible du Grand Voyageur, dont tu as déjà parlé dans tes podcasts. Et je me spécialise donc sur le voyage alternatif. Je suis connue sous le nom de la Globestoppeuse, parce que j'ai le blog Globestoppeuse qui traite de voyages alternatifs, bon, plus précisément de l'autostop, mais de façon générale, des techniques de voyage comme le bateau stop, le glanage urbain, le dumpster diving, ou d'autres techniques comme le camping urbain et tout ça. Et puis sinon, je suis assez impliquée dans la communauté des autostoppeurs en Europe, et de façon générale aussi, au niveau mondial, j'essaie de faire le lien, donc avec les francophones, les anglophones, les russophones, tout ça.
D'accord, et pour ceux qui verraient pas encore qui tu as des cheveux roses, et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à te reconnaître un peu partout, non?
Ouais, c'est devenu un peu la marque de commerce, mais maintenant je déçois beaucoup, en fait. Je les ai coupés récemment, il n'y a plus rien, tu sais. Mais ouais, j'avais teint les cheveux roses, j'ai eu toutes les couleurs, et le rose, c'était un peu par hasard, c'est tombé sur la même couleur que mon logo de Globestoppeuse. Donc du coup, j'ai gardé pour un certain temps.
Ouais, je trouve chouette. C'est comme ça qu'on te reconnaît. Alors on va reprendre Sun Trotteuse. Alors ton nouveau nom à propos du Sun Trip, ça paraît être un projet assez hallucinant. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu pourquoi ça a été créé, ce Sun Trip, en fait? Quel est le but?
D'accord. Alors Florian Bailly, l'organisateur du Sun Trip, s'était rendu d'abord il y a 2 ou 3 ans jusqu'au Japon. Avec le même type de véhicule, le même type d'itinéraire. Il a traversé le Kazakhstan, il est allé en Chine, paf, il s'est rendu jusqu'au Japon. Et à son retour, il a fait un film, il a fait des conférences, et il a rêvé de rassembler un certain nombre d'aventuriers pour attirer l'attention sur les véhicules solaires, sur la mobilité, sur ce type de création-là. Et ce qu'il a cherché à faire, c'est donc d'attirer l'attention en partant de France, mais de se rendre suffisamment loin pour que ce soit vraiment une aventure. Et le Kazakhstan semblait tout indiquer, parce que lui, notamment, il a eu des problèmes au Kazakhstan, son pédalier l'a lâché, alors qu'il avait donc un engin motorisé au niveau du pédalier, justement. Et aussi, question de temps, de durée. Donc, on rentre aux portes de l'Asie, mais on arrive à boucler le tout, même si on a que 3 mois qu'on peut prendre sans solde, 3 mois de vacances ou de congés à prendre.
Ouais, parce que ça fait 7500 kilomètres à peu près. Impressionnant. Alors, tu dis le Kazakhstan, ok, on sait pourquoi, parce que ça fait à peu près les 3 mois, là. Du coup, pourquoi solaire? Pourquoi pas en vélo, simplement? Est-ce que tu sais ça aussi?
Ben, à la base, le projet de Florian était de développer la mobilité solaire. C'est-à-dire que un vélo électrique, on peut aller plus loin avec moins d'efforts. Donc, ça se rend accessible même à des gens qui sont pas forcément très, très sportifs. Après, faut recharger. Donc, si on veut pouvoir en faire un moyen de déplacement autonome, soutenable, bien, il faudrait que ce soit plus accessible en termes de technologie, en termes de type de véhicule développé. Et bon, le fait d'avoir des aventuriers qui créent chacun leur véhicule selon leurs préférences, ça permet de faire avancer un petit peu aussi la cause de la mobilité durable, d'attirer l'attention sur les façons de composer ce type de véhicule là, et puis dire bon, même des gens qui sont pas très très en forme comme moi, qui suis plus une aventurière qu'une sportive, seraient capables de faire toute cette distance.
Parce que vous êtes une trentaine, hein, si j'ai bien compris.
Ouais, dernière nouvelle, on était 35. Il y a des abandons de temps en temps, là. Ça, c'est un peu dur sur le moral, mais... ouais, on est 35.
Et tu es la seule Canadienne à participer à ça. J'ai vu qu'il y avait des Suisses, des Belges, des Français, bien sûr.
Ouais, il y a 2 Tchèques. Ouais, il y a 2 Tchèques. Là, pour l'instant, ça se passe beaucoup en français, de toute façon. Donc, c'était des gens qui avaient suivi Florian Bailly, qui étaient sur sa liste de diffusion à l'époque, ou qui en ont entendu parler autour des véhicules électriques. Donc, souvent des passionnés, déjà, de ce type de véhicule. Et puis, bon, lorsque Florian essayait de monter tous ces participants-là, d'obtenir suffisamment de confirmation pour pouvoir lancer l'aventure, eh bien, il m'avait approché comme aventurière pour voir si j'avais pas envie de le faire. Et moi, je me suis dit, ça va bien avec la carrière que j'ai déjà un peu entamée en spécialiste de voyage alternatif, d'aller chercher une compétence supplémentaire au niveau du voyage à vélo, d'aller apprendre tout ça. Et puis, je pense que le vélo solaire, c'est alternatif. C'est pas un truc très conventionnel, donc ça me convenait assez bien.
Ouais, c'est sûr. Alors, on a parlé en deuxième partie. Je vais passer justement à la partie un peu plus technique où on va parler un peu du solaire. Mais en très clair, un vélo solaire, ça ressemble à quoi?
Un vélo solaire, c'est d'abord un vélo à assistance électrique. Donc, un vélo qui est équipé d'un moteur et d'une batterie. Le moteur peut être situé à plusieurs endroits. On connaît les Solex, entre autres, qui sont des vélos à assistance électrique sur la roue directement, sur le pneu ou la jante. Il y a des vélos à assistance électrique qui se font à l'aide de moteurs roues. C'est pas mal ce qui se fait le plus en ce moment, notamment en Chine. Et sinon, il y en a au niveau du pédalier. Donc, c'est déjà l'ensemble de base vélo à assistance électrique. Il faut quand même pouvoir, il faut pédaler pour avancer. Hein. C'est seulement une assistance. Ensuite, on rajoute un chargeur solaire, un outil qu'on appelle le MPPT, donc très technique. C'est un truc qui permet de prendre l'énergie des panneaux solaires et de l'optimiser pour la charge. Et puis ensuite, on a des panneaux solaires qu'il faut placer sur le vélo. Ça peut être un ensemble vélo remorque, comme ça peut être comme moi, ce que j'aurais un vélo cargo. Où il y a d'autres possibilités, il y a pas mal de gens qui partent en trike, hein, des vélos tricycles couchés. C'est permis dans le cadre de cette aventure-là.
C'est une sorte d'expérimentation aussi, hein, parce que vous partez tous avec des choses, justement comme tu dis, assez différentes. Et puis c'est quand même le premier numéro du Sun Trip. On espère que si ça marche bien, il y en aura un chaque 2 ans, si j'ai compris. Donc vous êtes un peu les expérimentateurs, les pionniers là-dedans aussi.
Oui, c'est le nom qu'ils nous ont donné dès le départ, d'ailleurs, les pionniers. Il y a plein de difficultés qui se présentent en ce moment, que ce soit au niveau technique. Déjà, on est 35, on essaie des trucs, on a chacun son opinion sur 7500 kilomètres. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, et comme on n'a pas tous les mêmes compétences, on va faire des choix qui vont s'accorder avec nos compétences et nos expériences. Et donc, j'ai souvent vu des argumentaires pour telle ou telle solution. Et puis, je trouvais que les deux côtés avaient très raison. Donc, faire un choix entre l'une ou l'autre des options dépend vraiment de le ressenti qu'on a face aux difficultés qu'on risque d'avoir.
Ouais, parce qu'alors, il y a le côté technique. Tu travailles avec des écoles d'ingénieurs et des choses comme ça, hein, ce qui paraît.
Oui, donc les premières personnes que j'ai contactées quand j'ai accepté, c'était une école d'ingénierie ici, l'ETS, à Montréal. Ils ont une équipe de véhicules solaires, donc ils ont un club qui envoie chaque année des véhicules solaires pour la course le World Solar Challenge qui a lieu dans le désert en Australie. Et donc tous les 2 ans, ils envoient un véhicule là-bas. Et eux, ils avaient donc une bonne compétence, ils ont accepté de parrainer techniquement le projet. Donc, j'ai trouvé ensuite une équipe de techniciens en génie électrique qui font leur projet de fin d'études et donc ils sont parrainés par les ingénieurs de l'ETS qui eux ont une expérience des véhicules solaires.
Ouais, c'est incroyable parce que c'est une course un peu. Alors moi, j'aime bien le Vendée Globe. Alors les moyens sont quand même différents parce que un seul bateau vaut plusieurs millions et je crois pas que ton vélo coûtera ça. Mais c'est un peu dans l'idée aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font en aval de la course en fait. Où on choisit les moyens techniques. Tu choisis ton itinéraire aussi, je pense.
Oui, on a beaucoup de possibilités. On a seulement 3 contraintes. Alors la contrainte de départ, c'est qu'on part tous de Bourget du Lac en même temps. On s'accompagne tous donc pour les 2 premières étapes jusqu'au col du Petit Saint-Bernard. Et ensuite, on a le choix jusqu'à Sotchi, la ville des Jeux Olympiques en Russie, par laquelle on doit obligatoirement passer. Il y a un checkpoint là-bas. Et puis ensuite, on doit arrive à Astana. Donc, entre tout ça, on a un itinéraire assez libre.
Ok, alors comment t'as préparé ça, toi? T'as regardé tes cartes, t'as questionné peut-être des cyclistes qui l'avaient déjà fait, t'as fait comment?
Je suis allée voir d'abord qui je connaissais ou qui dans mes contacts était allé en Asie centrale, dans le Kazakhstan, ou qui avait beaucoup voyagé à travers l'Europe comme ça. Et notamment Florian m'avait référé à des gens qu'il avait rencontrés sur la route en Asie centrale. Et je suis passée les voir au tout début de mon processus. Et ils m'ont montré les cartes, ils m'ont montré les difficultés, ils m'ont montré les vélos qu'ils avaient. Ils m'ont parlé de leurs problèmes techniques et tout ça. Et puis après, ça m'a donné donc une amorce, une ressource de base. Je me suis ensuite attelé avec des cartes, avec une personne qui s'y connaît bien, qui avait surtout traversé les Balkans et tout. Et on a regardé les différentes options. Elle m'a dit, bon, ben, à tel endroit, les paysages, ou à tel endroit, le dénivelé. On a fait des simulations à l'aide de sites comme Ride with GPS, qui sont donc des sites qui permettent de voir et le dénivelé, de voir bon la distance parcourue quand on prend telle ou telle route.
Et sur place, parce que c'est autonome, hein, totalement autonome. Tu n'as personne qui te suit pour t'aider.
Ouais, exactement. Donc pas de pièces non plus qui m'attendent à des checkpoints ou un truc comme ça.
Ouais, une grande difficulté technique. Donc, mais sur place, t'as déjà prévu des endroits où tu vas dormir, t'as déjà averti des gens, ou bien tu vas le faire à l'aventure. Bon, à l'aventure pour toi, on va dire que c'est relativement maîtrisé puisque tu as quand même d'expérience là-dedans.
Ouais, j'ai pas eu trop de soucis jusqu'à présent. J'ai pas trop pensé à ça parce que quand je me déplace sans arrêt, parce que j'ai un mode de vie parfois un peu nomade en Europe, d'habitude, je ne prévois pas plus d'un mois à l'avance l'endroit où je vais être, l'endroit où je vais dormir. Donc moi, pour moi, tant que j'arrive pas très près de cette date-là, ça me sert à rien de contacter des gens chez qui je ne vais que dormir une nuit. L'idée, c'est peut-être de préparer des documents explicatifs dans des langues qui vont se trouver sur la route, pour être capable de faire les demandes le plus efficacement possible. Mais après, bon, c'est un voyage donc qui risque aussi de me demander de m'adapter au départ à un rythme différent de ce que je prévois. Donc ça dépend comment sur la longueur j'arrive à m'y faire. J'essaie de voir l'itinéraire comme étant quelque chose que j'estime au pire. Donc pour que les visages, je sois certaine de pouvoir entrer au moment requis en Russie et au Kazakhstan notamment. Donc, j'essaie toujours de voir le temps le plus long que ça risque de me prendre. Et sur la route, par contre, ça risque d'être différent. Je risque de faire 40 km de plus dans ces journées-là. Je vais devoir m'adapter et ça sert à rien donc d'aller trop d'avance contacter tous ces gens-là.
Tu voyages avec une tente, avec un sac de couchage, ou comment est-ce que tu fais si jamais t'es crochet quelque part?
Tout le monde dans la course, dans l'aventure, dis-je, doit avoir le matériel de bivouac avec soi. On a notamment tous un brûleur, l'équipement de camping de base. Donc, je prévois camper environ le tiers des nuits, surtout vers la fin, surtout au Kazakhstan. Et donc, tu mentionnais, c'est un peu une course, mais c'est une aventure avant tout. C'est-à-dire qu'il y a deux défis à l'intérieur de l'aventure. L'un des défis, c'est la course, et moi, je n'y prends pas part. Donc, j'ai choisi de prendre part à l'autre défi, qui est le défi du Ubarouder, et qui est un défi de blogueur, d'écrivain voyageur, un petit peu plus.
Tu vas l'écrire au fur et à mesure avec du matériel, puis l'envoyer sur le net, ou bien tu vas le faire plus tard, après ces 3 mois, on va avoir des billets de toi. Comment ça se passe pour vous suivre, justement?
Ben, d'abord, à travers l'aventure elle-même, il y a déjà sur le site thesuntrip.com, il y a déjà une présentation de l'ensemble des aventuriers, avec des liens vers leur site web, leur compte Twitter ou Facebook, dans les cas où ils en ont. Et puis, une petite page de présentation qui mentionne nos sponsors et puis certains des choix techniques qu'on a fait. Ensuite, moi, personnellement, comme je voulais donc prendre part au défi de Barouder, toute ma stratégie, elle n'est pas basée sur la vitesse et donc pas basée non plus sur une recharge à 100% solaire. Donc, je vais pouvoir brancher la pile dans la prise avant d'arriver dans le désert déjà. Donc, on a pensé à prendre une batterie peut-être plus lourde, mais qui va pouvoir emmagasiner de l'énergie pour plus longtemps et être chargée dans la journée. Ou le soir, du moins, elle prend 6 heures à charger. Par contre, il y en a qui font 100% solaire. Et puis, eux n'ont pas le droit de charger, de brancher directement la pile dans la prise de courant. Et pour ce qui est donc du blog, il est déjà en place, donc à suntrotteuse.ca. Et il y a déjà, bon, aussi une page Facebook et Twitter. Et j'ai pensé à un concept assez particulier. C'est-à-dire que un voyage à vélo solaire organisé, ça, c'est un peu fou. C'est même très fou. Et ça coûte cher, et c'est complexe, et il y a plein de difficultés. Et je me suis dit, moi, je peux pas le faire. C'est la première chose que je me suis dit. Et puis après, j'ai pensé, si j'étais un super-héros, je pourrais peut-être le faire. Mais pour l'instant, je suis pas un super-héros, je suis un zéro. C'est un peu un processus comme dans un jeu vidéo. On part de rien, et on a le personnage qui va faire ses aventures, et puis devenir de plus en plus compétent. Et c'est donc l'idée de base de suntrotteuse.ca, c'est que je suis cette petite aventurière-là qui part de zéro et qui doit obtenir de plus en plus de compétences techniques, communicationnelles, physiques, tout ça. Et puis financer, bon, voir le budget, se faire des alliés, vaincre des ennemis. Et on voit sur le blog déjà des ennemis qui sont personnifiés et des amis qui sont personnifiés. C'est-à-dire qu'ils sont des morceaux peut-être de moi ou des gens. Ça représente des attitudes générales que les des gens ont envers moi. Et ça, c'est tout canalisé dans un ennemi que je vais devoir auquel je vais devoir faire face. C'est un peu ça le concept pour le moment.
D'accord, ouais, j'aime bien ce concept. Moi, je trouve ça sympa. Bon, je suis un gamer dans l'âme, donc j'aime bien ça. Ça me fait penser à mes jeux vidéo. J'aime bien ça. Mais tu vas continuer à bloguer pendant que tu feras le Sun Trip.
Oui, absolument. D'ailleurs, on a prévu une prise pour brancher mon ordinateur sur la batterie. On a aussi prévu que ma batterie pourrait se recharger sur une batterie de voiture en cas d'urgence, en cas de problème. Donc on a établi une stratégie très différente de si j'avais cherché à faire le 100% solaire, où on aurait privilégié le plus léger possible et puis moins de batterie en tout, mais plus de recharge solaire. C'est clair que je vais devoir prévoir ce temps-là pour l'écriture et puis des gens qui peuvent éditer un peu mes textes avant de les mettre en place. Il va y avoir peut-être moins de graphiques et plus de vraies photos, par contre, à cette étape-là, dans la dernière finale du Sun Trip, ce sera les derniers niveaux avant le monstre de la fin.
Avant le big boss. Ouais, mais ça ouais. Sonne bien, c'est cool. Moi, j'aime bien ce genre de projet. C'est vraiment atypique. Comme on va en parler après, tu as eu quand même pas mal de difficultés. C'est des gros, gros projets. Moi, une question qui me vient comme ça, j'ai envie de t'aider. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire quelque chose?
Alors, on a une campagne de financement qui est en cours, en train de mettre sur place ce système de crowdfunding. Donc, les gens peuvent contribuer à la mesure de ce qu'ils ont envie. Et puis, il y a bon, certaines reconnaissances ou récompenses qui sont prévues. Je fais notamment, ceux qui sont au Québec peuvent m'acheter aussi la Bible du Grand Voyageur, tous les profits de la vente directe, donc à partir de mon site web ou auprès de moi-même, vont aller pour le Sun Trip. Et sinon, ben, on a un système à travers tout ça de parrainage de cellules solaires où les gens peuvent donner donc pour $20, ils peuvent avoir une cellule à leur nom, donc ils en adoptent une, font une contribution de ce côté-là. Sinon, on est toujours à la recherche de partenaires financeurs d'importance, donc si vous connaissez des compagnies ou si vous seriez intéressé à avoir cette visibilité-là, on est très ouvert.
Ouais, c'est cool. J'aime bien le concept d'acheter des cellules solaires. C'est sympa. Ça fait un truc concret. Ce que tu disais, le budget pour les 3 mois, à peu près, pour nous donner une idée.
Alors, le budget, c'est d'environ $18,000. Je crois que ça fait autour de 13,000 euros. Ça comprend, donc, le vélo en lui-même qui est un vélo de type vélo cargo, un peu comme les vélos danois avec une charge à l'avant, 2 roues et puis un espace de chargement. Ça, c'est un vélo qui vaut aux alentours de $3,000-$3,500 et qui sera adapté. Et on a une commandite sur une bonne partie du vélo, mais pas sur tout. Ensuite, les panneaux solaires, c'est autour de $1,300. Le moteur, c'est à environ $450. Les batteries, c'est autour de $700. Et puis, bon, mais il y a toute la question du transport qui, moi, étant la seule nord-américaine à prendre part à ça, ben, je suis la seule confrontée avec le prix, donc... Le coût du transport du véhicule en cargo et puis bah, de moi-même jusqu'en France.
Ok, c'est cool. Ouais, ça fait pas mal d'argent, mais bon, comme tu le dis, hein, c'est des coûts incompressibles, comme on le dit, parce que je pense que sur place, tu as pas prévu de gaspiller des milliards pour aller dans des 5 étoiles entre tes périodes de vélo. Hein.
Non, en fait, dans le budget de 18 000, c'est sûr que je peux me permettre de retirer certains trucs. Bon, je peux pas enlever le chargeur solaire aussi. J'ai dépensé $300 pour le chargeur solaire. Je peux pas enlever ces trucs-là. Par contre, moi, j'ai prévu, je sais pas, $30 par jour au niveau de la nourriture et de l'hébergement. Et ça me semble assez clair qu'ayant vécu 3 ans à 5 euros par jour, je vais faire autrement. Par contre, il faut rester crédible et puis surtout bah, prévoir un certain montant pour les imprévus. Donc, ça fait partie de ma stratégie de levée de fonds hein, tout de même, d'aller chercher tout ça. Si jamais il devait y avoir des excédents, ce que je crois qui ne se produira pas. Mais s'il devait y en avoir, ça irait à l'organisation du Sun Trip, parce que eux aussi ils ont besoin de tout ça. Mais sinon, je garde un compte très précis de tout ce que j'investis moi-même, tout ce que j'avance comme argent, et puis tout ce qui est dépensé. Et on pourra savoir à la fin, où est-ce que ça aurait pu être amélioré, et puis ça nous permettra donc de vraiment tirer des leçons de l'expérience pour l'organisation des Sun Trip à l'avenir.
Ouais, je pense que c'est ça qui est intéressant. Quand tu fais une première édition, il y a de toute façon, comme on l'a dit, des petites erreurs peut-être qui se glissent quelque part, mais ça va être optimisé. Puis bon, on espère aussi, on l'a pas dit, mais une façon de t'aider, outre l'argent, c'est aussi de suivre ton blog, de te suivre sur Twitter, de te suivre sur Facebook, de suivre Sun Trip aussi, parce que je pense que vous avez besoin d'une grande présence au niveau des réseaux aussi, pour justement pouvoir ramener des partenaires ou des sponsors beaucoup plus facilement.
Tout à fait. Moi, j'aime bien dire à tous mes amis autour, je suis beaucoup dans les milieux universitaires à Montréal, je leur dis, mais je veux pas de votre argent, je veux celui de vos potes, je veux celui de vos parents, je veux celui de tout le monde autour. Donc, non, l'idée, c'est que je comprends bien que c'est pas tout le monde qui a les moyens de donner un coup de main, et puis moi pour commencer, mais l'idée, c'est que déjà en partageant l'information, en parlant à des gens qui pourraient vouloir contribuer, que ça pourrait vouloir intéresser, et puis en suivant, et même en faisant juste un petit mot d'encouragement, les likes, oui, c'est super sympa sur une page, ou les gens qui me suivent, j'aime encore mieux quand les gens viennent faire un petit commentaire, lancent des débats, juste. Moi, je dis, chaque mot compte, en fait. Parce qu'il y a tellement de gens qui me disent, oh, c'est fou ton truc, ou ça marchera pas. Parce que, on se dit, non, c'est trop cool, oui, ça va marcher, c'est une battante. Mais il y a des gens qui pensent le contraire. Et qui se gênent pas pour me le dire. Et donc, d'entendre des petits mots d'encouragement, ça fait toute la différence sur la productivité d'une journée, sur la possibilité de convaincre des bénévoles de me donner un coup de main, tout ça. Donc c'est pas de refus, hein. Toute cette ouverture là est bienvenue.
Ouais, exactement, il faut jamais négliger le pouvoir de l'humain, d'un simple merci, d'un simple allez vas-y, faut jamais ignorer ça.
Absolument.
OK, ben c'est cool. Alors on va arrêter là pour l'interview normale. Tout de suite après ça, après une pause, eh bien vous aurez les aspects techniques peut-être du solaire qui intéressent certainement certains d'entre vous, mais pas forcément tout le monde. En tout cas, on a bien apprécié de t'avoir. J'apprécie vraiment beaucoup d'avoir parlé avec toi, Annick Marie. On te suivra avec plaisir sur ton blog Sun Trotteuse, on le rappelle. Et puis ben voilà, donne-nous des nouvelles, n'oublie pas de nous envoyer des jolies photos, et puis on te suivra avec plaisir. Et voilà, j'espère que tu arriveras à la fin, que tu n'auras pas une cellule solaire qui se barre en volant.
Moi, je vais y aller un coup de pédale à la fois, c'est ce que je fais déjà, et puis j'ai confiance que un coup de pédale à la fois, je ferai ces 7500 kilomètres.
Exactement, c'est super cool. Alors, on te souhaite une bonne fin d'après-midi du côté de Montréal, je crois.
Oui, merci beaucoup, et puis bonne journée à vous.
À la prochaine, ciao ciao.
Au revoir. Change your heart. Look
around you. Ouais, c'est juste dommage que le solaire, ça marche pas vraiment, parce que moi je travaille dans une entreprise où on fabrique des machines qui font des panneaux solaires après, tu vois, je travaille avec le silicium et tout ça. Okay. Et on a même, dans mon entreprise, on fabrique carrément, de la base jusqu'au panneau solaire final. Mais c'est vrai que ça coûte excessivement cher, et c'est un marché pour l'instant qui marche pas très bien. Et du coup, moi, je vois chez nous, il y a des licenciements et tout ça, donc en fait, ils veulent investir nulle part. C'est ça qui... C'est un peu le mauvais timing aussi, je pense.
En ce moment, il y a... Il n'y a pas de panneaux flexibles ou presque en Amérique du Nord. Il y a une compagnie qui fait des panneaux flexibles, semi-flexibles, qui est Solbian Flex, qui arrive à en faire importer aux États-Unis. Au Canada, j'ai pas trouvé de distributeur. L'énergie solaire comme source d'énergie domestique n'est pas encore très répandue, mais les gens connaissent. Et pour ce qui est de l'énergie solaire comme source industrielle, ben là, on parle chinois. Hein. C'est pas un truc que les gens peuvent imaginer, parce qu'ici, on a une hydroélectricité. Il y a une source, donc, d'énergie propre, relativement propre. Et
qui a pas la problématique du solaire ni le prix, quoi.
Exactement.
Et qui est déjà installé.
C'est ça.
En Suisse, on a pas mal d'hydroélectrique, mais le solaire, pour l'instant, chez nous, marche pas vraiment bien. Mais on en fabrique quand même pour des particuliers, tout ça. On a pas mal de maisons en montagne qui sont vraiment isolées. Ouais. Et le solaire, c'est un peu le seul truc qui marche bien. Pour ça, on fabrique pas mal. On a des fermes aussi, tu vois, qui sont en alpage ou des choses comme ça, qui sont assez loin où ça marche pas mal. Et pour le particulier, pour l'instant, c'est surtout parce que la Suisse, elle avait donné beaucoup d'argent. Si tu faisais une maison, ils te subventionnaient beaucoup. Mais avec la crise, ça subventionne moins, quoi.
Il y a tout l'aspect politique derrière ça, c'est-à-dire pour le côté domestique, le risque donc d'acheter des panneaux est partagé par le particulier et par l'État à ce moment-là. S'il y a de l'énergie supplémentaire qui est produite, elle est revendue à l'État. Ouais. Ici, l'État en a beaucoup déjà. Mettre en place un système où le particulier produit de l'électricité et en revend, pour lui, c'est plus complexe que de tout simplement investir sur l'économie d'énergie à l'échelle du Québec pour en revendre, pour faire de l'argent aux États-Unis. Parce qu'on a un marché de l'énergie qui est très lié avec celui de la côte est américaine et de l'Ontario. Donc tout ça, ça fait que le solaire n'a jamais été vu, ni même la production d'électricité décentralisée n'a jamais été vue comme une option. Et donc il faut donc être assez passionné pour déjà avoir du solaire dans l'habitation, tout absorber les coûts et en plus savoir qu'on ne pourra pas se faire racheter l'électricité et devoir payer en plus quand même pour être rattaché au système hydroélectrique avec une redevance quotidienne qui est quand même assez élevée par rapport au prix de l'électricité elle-même. Donc au final, c'est très décourageant, à moins d'être, comme tu dis, en site éloigné, où ça peut valoir la peine de prendre en considération le solaire. Tous les chalets, en fait, c'est les endroits où on voit des panneaux solaires, toutes les installations routières temporaires sur les chantiers de construction, la signalisation, c'est les seuls endroits où on voit du solaire ici. Ouais. Donc le climat commercial et politique n'est pas le même. Et ça a un impact sur la façon dont je dois présenter le projet.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc moi, j'essaie de le rapprocher beaucoup plus du véhicule électrique, donc des voitures électriques qui pourraient éventuellement se voir dotées de panneaux solaires eux aussi.
Ouais, j'ai déjà roulé dans une Chrysler, je crois. Ça s'appelle la Chrysler Néon, où t'as des panneaux solaires dessus. Vraiment génial, mais bon, ça coûte encore cher comme voiture, mais c'est vraiment bien.
Ouais. Non, je sais que Toyota fait beaucoup de tests aussi. Il y a pas mal de.
T'as la Prius et tout ça, ouais. Mais qu'est-ce qui est unique ? Elle est pas solaire, mais elle est électrique, ouais.
Ouais, mais ils parlent de. Il y a des tests. Il y a déjà des endroits, notamment en Australie, il y a une boîte qui vend des panneaux solaires spécifiquement pour les adapter, un kit Prius. Donc, il y a quand même des développements de ce côté-là. Ça semble être l'endroit où les gens, où le commerce se dirige pour la mobilité électrique, donc qui est quand même le domaine le plus près du vélo électrique solaire pour le moment. Et sinon, il y a toutes les bornes de chargement des véhicules électriques.
Ouais.
Nous, on n'en a pas, pratiquement pas encore. C'est pas, j'en ai vu à Paris, tu vois, en me promenant, mais nous, c'est encore extrêmement marginal. J'en ai jamais vu au Canada. Il y a quelques boîtes, il y a une boîte québécoise qui en fabrique et en distribue, mais même elle est obligée d'aller chercher des partenariats de sponsoring, donc c'est pas évident d'essayer d'aller les voir pour souder les liens. Il y a quelques autres entreprises aux États-Unis, il y a toute la borne, l'idée d'avoir par exemple un endroit, un stationnement de vélo avec des bornes de recharge pour vélo électrique avec des panneaux solaires sur le dessus, hein, une petite unité autonome dans les villes. Mais bon, on sait que ça existe. Après, développer un partenariat avec eux quand eux essaient déjà de survivre, c'est un peu difficile.
Ouais, c'est ça. Nous, à Berne, ça a commencé il y a une année à peu près, justement, ces bornes un peu. Il y en a une au centre-ville, je crois, c'est vraiment tout quand tu veux faire un tour de la ville en vélo, tu vois. Mais c'est vrai que eux, je pense, ont déjà un peu de la peine à survivre là-dedans. Ouais, complexe. Je trouve le projet super intéressant parce que bon, je travaille pour le solaire, donc je trouve ça chouette. J'aurais bien aimé voir le côté mécanique et solaire du truc, quoi. Je me rappelle plus quand est-ce que j'ai appris que ce truc existait, là, le Sun Trip. Mais si je l'avais fait avant, j'aurais peut-être discuté avec quelques ingénieurs chez nous qui sont très bons pour ce genre de truc, quoi. C'est dommage, c'est un peu trop tard, mais j'aurais bien aimé voir au niveau mécanique comment ça se fait, quoi.
Au niveau mécanique, tu veux dire au niveau des moteurs?
Ouais, tout le niveau. Moi, je suis mécanicien de précision, tu vois, donc je construis des grosses machines qui ont pas grand-chose à voir avec un vélo, mais j'aurais bien aimé, ouais, faire le concept du vélo et tout ça, et voir au niveau solaire ce qu'on pouvait faire chez nous, justement. Comme moteur, on construit pas de moteur, mais au niveau solaire, on est vraiment pas mauvais, quoi.
Ouais. Ouais, ok, dans le sens mécanique, dans le sens d'établir le dispositif lui-même.
Voilà, solaire, comment savoir la rentabilité, les batteries et tout ça. Parce qu'on je sais que chez nous on bosse sur des projets au Sénégal, mais c'est pas pour des vélos, hein. C'est juste pour fournir du solaire à certains endroits où ils ont pas de courant. Je sais qu'il y a quelques projets comme ça qui sont assez intéressants, et au niveau du solaire, tu peux vraiment beaucoup jouer justement. Sur la qualité du silicium, il y a encore toute une complexité là-dedans qui est très intéressante.
En fait, le truc, c'est qu'en ce moment, au niveau technologique, avec ce que moi j'ai pu trouver, c'est que t'as trois grands types de panneaux. T'as les panneaux rigides qui sont classiques, qui sont assez bien développés. Il y a un prototype de panneau rigide qui permet d'aller chercher, je pense, autour de 23-24% d'efficacité. Par contre, c'est pour l'instant, il n'est pas disponible. Même ici, mon partenaire technique qui est Eclipse. Eclipse est un véhicule solaire fait par les étudiants en ingénierie de l'École de technologie supérieure. Eux, à tous les deux ans, ils vont prendre part à la course dans le désert en Australie avec leur véhicule. Eux, bon, ils sont bien au fait des dernières technologies des cellules solaires. Et même eux, ils n'arrivent pas à en obtenir de ces cellules-là pour le moment. Donc, ils se rabattent sur d'autres cellules qui montent directement sur la carrosserie.
Ouais.
Ce que moi je voulais pas faire parce que d'un j'ai pas de carrosserie et de déjà, deux bon il y a trop de difficultés pour moi techniques déjà à penser avant de monter chacun des trucs, donc je me suis tournée vers des panneaux commerciaux, et dans les panneaux commerciaux ça nous prenait non pas du rigide mais du semi flexible parce que on va être en mouvement.
Ouais, t'as beaucoup de vibrations pour... De toute façon, tu peux pas faire une seule plaque, ça serait trop dangereux, je pense. Hein.
Et ne serait-ce que pour le poids aussi. Parce que tout ce qui est rigide, si on regarde l'efficacité par surface, ça va. Mais si on regarde l'efficacité par poids, et considérant qu'on se déplace avec les panneaux, eh bien, ça descend rapidement. Donc le fait qu'on se déplace, si on veut que les panneaux ajoutent quelque chose, il faut qu'ils soient plus légers que des panneaux traditionnels. Ensuite... Il y a l'aspect pratique de surface, parce qu'il existe des panneaux complètement souples en ce moment, surtout sur le marché américain, développés beaucoup pour l'armée, pour recharger des pièces électroniques sur les sacs à dos ou sur les vêtements, une veste avec des panneaux flexibles dessus, et tu mets ton portable dans la poche et puis tu recharges. Mais pour la surface, pour la puissance qu'on doit aller chercher sur le vélo solaire, ça valait pas le coup. L'efficacité par surface est moins grande. Donc, on se retrouve avec une très grande surface de panneaux pour les besoins qu'on a. Et ils sont faits de plus en plus, les panneaux souples aussi, pour l'habitation, mais pour être capable d'adapter une maison donc avec une source de solaire, sans avoir à refaire une partie de la toiture, sans avoir à monter des supports particuliers. Donc, il vise à réduire le coût de l'installation de grandes quantités de panneaux sur une maison. Et donc, ils sont faits en longueur. Ils sont faits étroits et très longs, ces panneaux-là, pour les besoins de la cause, pour que depuis un côté de la toiture, on les fixe à plusieurs autres endroits, on les déroule, en fait. C'est un peu comme des tapis. Et c'est assez peu adapté pour pouvoir s'en servir sur... un vélo électrique solaire. Donc, nos choix étaient quand même assez limités au niveau de la technologie du solaire. Il y a peut-être trois compagnies qui sont ressorties pour des panneaux commerciaux, trois ou quatre. Et à partir de là, on fait du mieux en termes de conception, selon qu'on s'imagine pouvoir mettre un panneau de 100 watts ici, un de 130 là, un de 60. Donc, c'est comment on va les agencer, les conjuguer, compte tenu du fait qu'on a besoin aussi du chargeur, du contrôleur. Si on les met en série, il n'y a pas de souci. Si on les met en parallèle, ça peut être plus compliqué. Est-ce qu'on a besoin de changer la configuration des panneaux pendant le voyage? Par exemple, moi, sur le vélo, il y a un panneau visible en tout temps, mais il y a un autre panneau. Donc, j'avais pas l'espace, la superficie disponible pour avoir deux panneaux visibles en tout temps. Par contre, si je m'arrête pendant les heures chaudes de la journée, parce qu'il fait trop chaud pour rouler, et puis parce que je vais faire plus très tôt le matin et plus en après-midi, et à ce moment-là, je peux déployer les panneaux et puis charger. Mais il faut que je change le branchement ou que j'ai deux contrôleurs. Donc, ouais. C'est des trucs comme ça auxquels il faut penser dans le design, sur lesquels on aurait peut-être pu être innovateur, mais les contraintes sont quand même assez sévères.
Ouais, c'est ça, il faut du temps et tout ça. Je me suis demandé aussi s'il y avait pas moyen d'incliner les panneaux, tu vois, en fonction de des heures dans la journée où tu vas, parce que si tu es sur une route droite, tu peux facilement incliner les panneaux et c'est ça pour la rentabilité, c'est énorme quoi.
Oui, oui, on sait que les panneaux solaires perdent énormément d'efficacité à partir du moment où le soleil ne les frappe pas de façon perpendiculaire.
Voilà.
Donc y a ça, il y a aussi le fait que à partir du moment où il y a une cellule d'ombragée, elle est le maillon faible, elle diminue la tension de l'ensemble du panneau. Donc il faut s'assurer d'avoir absolument aucune ombre sur le panneau. C'est des contraintes auxquelles il faut penser que bon, moi au départ, j'avais pas nécessairement en tête.
Mais je pense au début tu t'es dit ouais, tu branches des panneaux solaires à un vélo électrique et tu démarres quoi, c'est
ouais, c'est la recette, c'est
ouais. Ça paraît toujours simple au début, mais c'est cool, je pense t'apprends à fond des trucs quoi. Puis si je sais pas si j'ai bien compris, mais là il semblerait que ce soit la première et que si ça marche éventuellement ils en refassent pas forcément chaque année mais relativement souvent.
Ouais, ils pensaient en faire une tous les deux ans.
Tu vois là, je pense aussi si t'es parmi les pionniers, ben voilà, tu vas sûrement faire des erreurs qui seront profitables pour les suivants. On saura mieux comment faire. Mais ça, par exemple, ça, c'est un challenge qui me dirait bien. Parce que je trouve que c'est intéressant. T'as de la technologie. T'as quand même beaucoup d'humains dedans. T'as du voyage. Je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi.
Je t'invite à investir dans cette aventure auprès de moi.
Mais moi, je vais avoir un vélo à moi. Puis voyager moi-même.
Ah, ben oui, mais j'investirai à mon tour quand tu auras le tien. Je te promets.
Non, le coup d'acheter des cellules solaires, ça m'a fait marrer, moi. J'ai bien aimé ça. Ouais, oui. Je trouve ça sympa, moi.
C'est une idée qui me vient de l'ETS qui est de Eclipse. Ils disent ça marche bien parce que ça leur donne une idée, parce que déjà la plupart des cellules coûtent environ $20 la cellule. Donc c'est quelque chose de très concret. Les gens sont comme ben c'est à moi. Tu leur dis donne-moi $20 pour mon projet, ils s'en foutent un peu. Mais tu leur dis ayez votre propre cellule sur mon vélo. Ah mais là c'est autre chose. Il y a le lien là, très fort. Ils veulent voir c'est laquelle la mienne.
Ouais, c'est exactement ça. Non, je trouve pas mal. Je trouve vraiment pas mal.
Scott Pilgrim.
Salut, je me disais qu'on pourrait faire des trucs ensemble, puis je me suis dit que ça serait stupide. Tu veux qu'on fasse des trucs ensemble?
Non, désolé. Faudrait juste que tu signes pour ça.
J'étais endormi et je t'ai vu en rêve. J'ai rêvé que tu venais me livrer ce paquet. Étrange, non?
Non, c'est pas étrange.
Non?
Non, c'est juste qu'il y a une autoroute subspatiale hyper pratique qui passe par ta tête. On fait 5 km en 15 secondes.
Ouais, d'accord.
C'est vrai, vous avez pas ça au Canada.
Tu te souviens pas de moi? On s'est parlé au party l'autre soir.
C'est toi, Pac-Man?
Non, du tout, ça c'était un pauvre crétin. Non, moi j'étais l'autre gars.
Et merci d'avoir écouté cette interview et encore merci à Annick-Marie d'avoir pris du temps pour moi. C'était vraiment plus que sympathique. J'espère pouvoir de nouveau la voir comme invitée après son Sun Trip pour qu'elle nous raconte un peu comment ça s'est passé. Alors vous allez peut-être vous demander, qu'est-ce que les bons sons ont à voir entre elles? Et qu'est-ce que ça a à voir avec Annick? Eh ben, c'est assez simple finalement, puisque c'était mon invité et puis que j'ai pas vraiment trouvé de truc avec des vélos solaires qui étaient marrants, je me suis dit que j'allais jouer sur la couleur des cheveux. Et puis, le premier film dont vous entendez la musique, c'est Scott Pilgrim Against the World, qui est vraiment un film assez spécial, vraiment très très geek, mais qui vaut vraiment la peine d'être vu, notamment pour ses transitions, qui sont, je pense, on peut le dire, les plus innovantes au cinéma depuis très 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 longtemps et qu'on n'a pas vu dans les nouveaux films non plus. C'est vraiment un film super sympa, qui est tiré d'un manga. Et puis je l'ai pris parce que l'héroïne a les cheveux bleus au début du film, rose après, puis vert à la fin. Et puis ça me faisait penser un peu à Annick parce qu'elle a aussi les cheveux qui changent de couleur de temps à autre. Le film se passe au Canada, donc je trouvais que ça crochait un peu. La première musique que vous entendez sur le podcast, c'est Beck. Et c'est une musique assez intéressante qui a été faite pour le film, un truc vraiment assez barge, je trouve. Et puis qui fait le lien avec le deuxième film, que vous aurez peut-être reconnu, puisqu'il s'agit de, attention, le titre en anglais super long et que je vais certainement mal prononcer, Eternal Sunshine and the Spotless Mind. Alors c'est un nom affreux pour un film absolument fabuleux. C'est vraiment un grand film, il est cité dans les 200 premiers films à voir sur IMDb par exemple. Donc un truc vraiment exceptionnel. Alors je vais pas vous raconter parce que si on le raconte, ça le fait pas. Et si on le raconte, il a surtout l'air très très nul, alors qu'en fait il est très très bon. Et puis pourquoi ce film ? Eh bien parce qu'il m'a semblé qu'Annick Marie l'aimait comme film, j'en suis pas sûr et si c'est pas le cas je m'en excuse. Et puis surtout parce que l'héroïne jouée par Kate Winslet a aussi les cheveux qui changent de couleur pendant tout le film. Alors du coup je trouvais que ça faisait assez bien le crochet. Et puis pour que ça fasse encore plus le lien, sachez que Beck, qui a donc fait la musique de Scott Pilgrim, a aussi fait certaines musiques de Eternal Sunshine. Donc finalement... tout ça s'englobe assez bien, et puis l'interlude musical est aussi dans le film Eternal Sunshine, donc tout ça finalement s'englobe assez bien dans une sorte d'harmonie assez sympathique pour un podcast. Bref, je ne vais pas vous la faire longue, Scott Pilgrim et Eternal Sunshine, regardez-les vraiment, c'est des très bons films de très bonne qualité, vraiment cela, regardez-les. Je vais pas faire plus long parce qu'on est déjà assez long. Le prochain podcast sera très spécial puisqu'il s'agira du 27e podcast et du podcast anniversaire de VoyageCast. Et oui, ça fera une année que je parle tout seul dans mon micro dans ma chambre. Absolument fabuleux. Moi qui tablais sur 5 épisodes en espérant arriver à 4, eh bien j'en suis à 27 et j'en suis absolument heureux. 27e épisode assez spécial aussi puisque vous entendrez... Pierre, qui a été le premier invité sur VoyageCast, il nous avait parlé de Salamanca. Et puis, mon papa, qui est la star du podcast, puisque nous avons été faire un petit tour en bateau. Et on a d'ailleurs profité de faire, à mon avis, sans m'avancer, le premier podcast enregistré sur un bateau. C'est quand même pas n'importe quoi. Je veux dire, pour le premier anniversaire, c'est pas mal. Pour le deuxième anniversaire, je pense faire un truc encore plus fort avec Mars en arrière-plan et tout. Mais ce coup-ci, on a décidé de rester simple et d'aller en France, sur un petit bateau, sur le fleuve. Un truc bien sympa dont on va vous parler dans ce 27e épisode. Et puis je peux d'ores et déjà vous confirmer que la deuxième année de VoyageCast va se faire. Et mon premier invité a... Non, je vais rien vous dire. En fait, non. Vous devrez écouter, ma foi, je le dirai pas. C'est juste que c'est une star et que si vous aimez le voyage, vous le connaissez. Parce que c'est une star, c'est un mec génial. Il a une voix que vous reconnaîtrez tout de suite. Bref, c'est... ouais, un exemple pour moi, pour tous ceux qui font du podcast et pour tous ceux qui voyagent. Bref, vous en saurez plus en continuant d'écouter VoyageCast. Alors, on se dit à la prochaine et entre-temps, espérons que l'été arrivera. Parce que chez nous, il est pas encore là. Allez, à ciao, bonsoir. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving, night sunshine. And everybody's gotta learn sometime.